Vous écoutez RTL.
Il est 15h04, vous êtes sur RTL, on est fait pour s'entendre avec Flavie Famant, que l'on soit cousin, nièce, neveu, petit-fils.
Ça vous intéresse, vous, la généalogie?
Bien sûr.
Vous avez déjà essayé?
On a commencé un peu en famille.
Ouais. Très bien, vous êtes remonté loin?
Oui, vers 1700 et quelques, oui.
Pas mal, très bien. Bah, restez quand même à notre écoute, Marie Guerrier,
car
peut-être que grâce à nos invités, vous pourrez remonter encore plus loin dans votre arbre généalogique. À tout à l'heure, 16h, pour un prochain point sur l'actu. Et puis vous savez quoi? Grâce à la généalogie, eh bien, j'ai appris que j'étais la descendante de Joséphine Baker. Maintenant, je sais d'où vient mon déhanché. Allez, blague à part, on escalade notre arbre généalogique cet après-midi sur RTL. À tout de suite pour toutes vos questions.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse, que dis-je? Nous sommes heureux de passer cette heure avec vous en direct sur RTL. Merci de nous faire cette place dans votre quotidien et dans votre vie. On n'a pas la prétention de vous la changer, la vie, mais de pouvoir plutôt vous apporter un petit quelque chose, sinon un petit peu de reconnaissance, beaucoup de bonne humeur et ce petit truc qui change tout, une furieuse envie de partager. 3210, les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'idée que vous allez faire exploser les compteurs aujourd'hui, car nous allons parler de notre arbre généalogique. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur, déclarait Winston Churchill. Selon une étude OpinionWay de décembre dernier, un Français sur deux a déjà entrepris de remonter le fil de ses origines pour établir son fameux arbre généalogique. Alors qu'est-ce que cette démarche d'enquêteur du passé dit de nous? Que peut-on y trouver? Y a-t-il des risques? Comment procéder? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Marie-Odile Merniac, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, Marie-Odile. Vous êtes auteure, historienne, généalogiste et organisatrice du fameux salon de la généalogie qui se tiendra les 10 et 11 mars prochains. C'est à la mairie du 15e arrondissement de Paris. Et puis vous êtes auteur, entre autres, donc de l'Atlas des noms de famille. Qu'est-ce que vous m'avez apporté aussi aujourd'hui? Retrouver l'histoire d'une maison. D'ailleurs, on aura plaisir à vous recevoir très prochainement sur ce thème, aux éditions Archives et Culture. Et puis, faire son arbre généalogique par Internet, c'est un ouvrage que vous co-signez avec Yann Guilherme, qui va également passer l'heure avec nous. Yann Guilherme, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Alors, vous êtes spécialiste de généalogie et vous êtes créateur du site www.guide-généalogie.com, auteur de Retrouver ses ancêtres bretons aux éditions Archives et Culture. En fait, vous êtes venu avec votre bibliothèque, hein, quand même. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que l'actualité donc littéraire vous concernant est assez conséquente. Alors, est-ce à dire qu'effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, Yann Guilherme, les Français ont besoin de savoir d'où ils viennent?
Oui, tout à fait. Surtout depuis le début du XXe siècle avec les migrations.
Oui.
Les gens sont partis de Bretagne, de Corse, de différentes régions de France pour monter à Paris ou ailleurs. Et donc, ils ont besoin de savoir d'où ils viennent, en fait.
Mais est-ce que vous pensez aussi, vous, Marie-Odile Merniac, que c'est propre à une société qui, aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de se recentrer sur ses origines, de trouver une sorte de refuge aussi psychologique, de s'enraciner?
S'enraciner reste utile, mais il faut aussi réaliser qu'on a de plus en plus de loisirs. Et que la généalogie, c'est un loisir qui demande du temps.
Ouais.
On n'en avait pas autrefois, on en a maintenant.
Ouais.
Qui demande un minimum de diplôme pour ne pas être effrayé par une entrée aux archives départementales qui serait un temple du savoir, dans lequel on n'oserait pas rentrer. Et puis c'est tout à fait passionnant. Donc si on a du temps libre, autant l'occuper à quelque chose de passionnant. Et ça, c'est le cas.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une tendance quand même aujourd'hui?
Oui.
Yann Guilherme.
Oui. Oui, surtout que, en fait, maintenant, les recherches sont facilitées avec la mise en ligne d'archives, parce qu'on a un réseau d'archives très structuré en France, les archives départementales. Ils ont des sites internet et les archives sont de plus en plus en ligne. Registres paroissiaux, état civil et d'autres documents comme les recensements. Donc, ça facilite les recherches parce que maintenant, on n'a plus forcément besoin de se déplacer pour commencer son arbre.
Est-ce que dans ces arbres généalogiques, on peut aussi avoir des surprises au gré des branches que l'on grimpe, Marie-Odile Merniac? Est-ce que ça nous réserve parfois des surprises qui soit nous font marrer, soit tout à coup nous ancrent aussi encore plus dans l'idée de la filiation et d'appartenir à une famille? Est-ce que c'est une façon, comme je disais moi tout à l'heure en rigolant sur Joséphine Baker et que je comprenais mon déhanché, est-ce que c'est une façon de mieux se comprendre aussi dans son mode de fonctionnement que de connaître ses ancêtres?
Oui, de mieux se comprendre, d'avoir des surprises, ça de toute façon. Oui, la Bruyère disait qu'on descend tous dans notre arbre, à la fois d'un roi et d'un pendu. Donc effectivement, on trouve de tout. Ce qui fait que quand on a fait son arbre généalogique, je pense qu'on est davantage ouvert sur le monde, parce qu'on a trouvé aussi bien, par exemple, au moment de la Révolution, un bonapartiste, un royaliste, un républicain. On a trouvé tout type de personnes.
Diversité.
Une énorme diversité qu'on n'imagine pas forcément découvrir au moment où l'on entame une recherche généalogique. Et ça, je trouve que c'est très beau aussi, au cours de la recherche.
Eh ben, je ne sais pas si Gérard, que l'on va prendre dans un instant sur l'antenne d'RTL, s'imaginait qu'en remontant son arbre généalogique, il pourrait réaliser qu'il était cousin de François Hollande et de Michel Delpech. Hein, quand même, c'est dire. Eh bien, il va nous raconter justement son expérience dans un instant sur l'antenne d'RTL. Si vous aussi, vous voulez nous poser des questions, vous composez le 3210. On a vraiment des spécialistes qui peuvent vous répondre sur l'antenne d'RTL jusqu'à 16h. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Steven nous écrit: j'ai toujours voulu faire mon arbre généalogique, mais j'ai le sentiment que c'est assez fastidieux et que le temps ne me le permet pas. Je ne saurais d'ailleurs pas du tout par où commencer. Comment s'y prendre? Y a-t-il des sites qui le proposent? Sont-ils payants? J'attends votre émission avec impatience pour avoir plus d'infos. Eh bien, restez avec nous, Steven, car vous allez apprendre beaucoup de choses, justement, jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL, grâce à nos invités Marie-Odile Merniac et Yann Guillerme. Yann Guillerme, vous êtes cousin de Clotilde Courau.
Oui, en remontant les branches. Donc là, sa généalogie avait été faite par une personne et j'ai trouvé un ancêtre commun avec Clotilde Courau et Philippe de Robien, parce qu'ils sont cousins assez proches tous les deux en fait.
D'accord. Et c'est vrai que Obama est cousin de la reine d'Angleterre, Marie-Odile Merniac.
Oui,
et de François Mitterrand.
D'Elisabeth II et de François Mitterrand. Donc ils ont tous les trois.
Barack
Obama.
D'accord.
Exactement.
Mais alors, où faut-il remonter pour, à un moment donné, être quasiment certain de pouvoir avoir un arbre assez étoffé pour justement pouvoir rencontrer ce genre de cousinage célèbre et un peu loufoque?
Ça peut être des cousins très proches, ça peut être le 19e siècle, le 17e siècle.
Moi, ça me semble loin déjà.
Hein, ouais. Mais,
ouais.
Oui.
Si vous, c'est à côté, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut remonter dans le temps quand même.
Vous avez un site, c'est Généastar.
Oui.
Vous avez des généalogies de célébrités qui sont faites par des bénévoles et qui sont mises en ligne.
Très bien.
Ou des associations de généalogie aussi qui font la généalogie de célébrités.
Généastar.
Oui, Généastar, oui.
Très bien, on va mettre les coordonnées sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous présenter, si vous le voulez bien, un cousin, alors je ne connais pas, je ne sais pas s'il est très éloigné, de François Hollande et de Michel Delpech, ce qui veut dire déjà que François et Michel sont cousins, hein, puisque si Gérard est leur cousin, c'est qu'eux sont cousins, on est bien d'accord. Je ne me trompe pas.
Non, pas forcément.
Okay. Oh,
il peut être cousin de l'un par son père et cousin de l'autre par sa mère.
Eh bien, il va nous le dire. Gérard, bonjour, bienvenue sur RTL.
Oui, bonjour Flavie et bonjour à vos invités.
Merci d'avoir accepté notre invitation téléphonique, Gérard. Alors, quand avez-vous expliqué à Monique que vous étiez le cousin de François Hollande et de Michel Delpech?
Oh, il y a à peu près 6 mois environ.
D'accord, donc ça n'a pas été un argument de drague, hein, parce que ça fait plus longtemps que vous êtes avec Monique.
Ça fait 40 ans qu'on se connaît, donc...
Est-ce que ça veut dire que vous avez profité de votre retraite du côté de Montbazillac pour vous intéresser justement à vos origines?
Oui, génial. Plus précisément, je cherchais les références à mon patronyme, et puis finalement j'étais un peu plus loin en me disant, mais si je regardais uniquement dans ma lignée généalogique,
oui.
J'ai trouvé un fil conducteur de manière... J'ai jamais connu ni mes grands-pères, ni mes arrière-grands-pères, et en allant sur un site qui s'appelle Mémoire des Hommes, j'ai trouvé qu'un de mes arrière-grands-pères était décédé pendant la guerre de 14, et puis là, c'était le premier fil conducteur, et puis au fur et à mesure, je me suis inscrit sur un site qui s'appelle Généanet, pardon, je fais de la publicité pour eux, puis j'ai découvert tout un tas de choses, je vais sur les sites des archives, via Internet, et je découvre plein de choses. Et la dernière en date, c'est un cousinage avec Madame Tussaud.
Mais tiens donc.
J'ai découvert que 5 générations du côté maternel auraient fait partie des bourreaux qui sont partis de la Suisse jusqu'à Strasbourg.
Qu'est-ce que ça vous fait de découvrir tout ça, en dehors du côté romanesque finalement, de ces découvertes? Est-ce que vous avez le sentiment peut-être d'être plus aligné dans une sorte de filiation, dans l'idée d'une famille comme ça qui s'installe sur tant de générations?
Oui, puisque sur la filiation directe, sur mon patronyme, on remonte sur 17 générations. Ouais. Donc ça me permet de savoir un petit peu ce qu'ont fait mes parents, mes grands-parents, puisque j'ai perdu maman très jeune, donc je n'ai aucune connaissance de ce qui a pu se passer dans la famille. Mon père n'est pas un très très grand bavard, donc c'est pareil. Et ben comme ça, à partir des actes, je découvre les métiers de la famille, j'ai pu retrouver des cousins. Donc c'est relativement intéressant et très enrichissant. Et j'ai un petit frère qui a 16 ans de moins que moi. Ça me permet de lui dire un petit peu, il n'a pas connu sa maman ou très peu. Donc ça me permet de lui expliquer un petit peu qui étaient ses ancêtres.
Ouais, c'est super. Et puis j'imagine aussi que pour les générations qui viennent, en fait, vous faites un travail de transmission.
Ah ben, j'ai mon petit-fils qui a 7 mois.
Ah,
et donc ça sera, bah, j'espère pour lui, à lui apprendre et puis lui faire comprendre un petit peu ce que l'on était.
Vous avez voulu faire la même chose pour Monique, hein. C'est-à-dire
oui.
qu'en prenant goût à ça, j'imagine que vous avez voulu lui réserver aussi ce même plaisir. En revanche, là vous avez rencontré des obstacles.
Alors, je rencontre des obstacles, notamment, puisque, bon, elle a eu de la famille qui est partie en Algérie au moment des colonies. Donc, il y a quand même des blocages pour retrouver des... Je retrouve quelques traces, mais très peu. Elle avait de la famille qui était dans le Nord-Pas-de-Calais. Le village a été rasé pendant la Première Guerre mondiale. Donc, les documents ont été reconstitués ensuite... Mais tout ce qui est documents précédents pour connaître les actes de naissance, les actes de mariage, je n'arrive à rien retrouver. Et en mairie, préfecture, on ne peut rien me donner.
Alors ça, c'est fréquent, Yann Guillaume, de se retrouver avec finalement un passé auquel on ne peut pas accéder parce que détruit, parce que l'histoire en a décidé autrement.
Oui, il y a des régions où il y a eu quand même beaucoup de destructions, dans l'est de la France pendant la guerre 14-18, ou la Manche aussi, où il y a eu des destructions pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va dépendre de la région. Paris tout simplement aussi, puisqu'en 1870, les registres d'état civil et les registres paroissiaux ont brûlé. Et les deux exemplaires, parce que normalement vous avez deux exemplaires qui sont faits,
ouais.
Et les deux exemplaires ont brûlé. Donc sur Paris, c'est très difficile de remonter. On va utiliser d'autres archives, comme les archives notariales,
ouais.
Pour essayer de progresser dans ces recherches.
Est-ce qu'on peut accéder à toutes ces archives, en fait, Marie-Odile Merniak ? Ce qu'explique finalement Yann Guillaume, c'est qu'on peut trouver une sorte de stratégie, vous voyez, pour contourner finalement
oui,
le problème.
Oui.
On peut accéder à toutes les archives concernant nos ancêtres ?
Oui, à partir du moment où... Alors, pour l'état civil, il faut que les documents aient plus de 75 ans.
D'accord.
Et puis, le même délai pour les documents qui sont chez les notaires et qui ont été versés maintenant aux archives départementales. Alors, aux archives départementales, les notaires ne les versent parfois que quand les archives ont 100 ans. Mais disons, globalement, ça permet de franchir un certain nombre d'écueils. Par exemple, la destruction de l'état oui. civil parisien en 1870.
Très bien. Gérard, je vous remercie. J'imagine que vous allez rester avec nous jusqu'à 16
heures. Comme chaque jour.
Ah, c'est très gentil. Pendant que vous faites vos recherches, en plus, vous écoutez RTL, c'est super.
Voilà.
Et puis, merci vraiment pour votre témoignage que vous considérez comme une façon de compléter votre vie. J'ai trouvé cette expression très jolie, justement. Et elle résume bien, effectivement, le plaisir de faire son arbre généalogique. Je me permets de vous embrasser si Monique m'y autorise.
Ah, ben, il n'y a pas de problème. Et puis, désolé pour Marie-Odile de ne pas pouvoir assister à la réunion de ce week-end, mais j'ai d'autres occupations pour monter à Paris.
Eh bien, le message est passé. On vous embrasse. Au revoir, Gérard.
Merci. Bonne journée. Au revoir.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alors, généalogie, mode d'emploi, on va vous livrer tous les conseils si vous décidez de vous attaquer effectivement à cette formidable aventure. Hein, et on vient de l'entendre à travers le témoignage de Gérard. Un petit peu plus tard, c'est Alain qui va témoigner. Beaucoup de messages qui nous arrivent. Alors, Gérard, par exemple, Marie-Odile Merniak, qui nous explique qu'il est remonté à 2500. Il a pu retrouver 2500 ancêtres. Ça me semble énorme. Est-ce que c'est un record ou est-ce que c'est classique ?
Oui, c'est exponentiel. Déjà, voilà. Les ancêtres, 2, 4, 8, 16, ça se multiplie à chaque génération. Donc, à la 15e génération, déjà, on en a 2000 et quelques. Et alors, si on cherche les descendants, si on ne s'intéresse pas qu'aux morts, mais aussi aux vivants, oui. Et qu'on veut retrouver des cousins, on peut retrouver des chiffres beaucoup plus impressionnants que ces 2000-là. Le record...
C'est Georges Porto, c'est ça ?
Exactement.
Oui, alors lui, qu'est-ce qui s'est passé ?
Georges, voilà, il y a eu une cousinade record en 2012. Donc ce Vendéen sur la famille Porto a retrouvé 22 000 cousins vivants qu'il a invité à une gigantesque fête de famille, alors Tiens record donc. À battre hein, ouais. pour ceux qui, qui cherchent, et 5 000 ont répondu présent, ouais. 5 000 sont venus, et il a fallu prendre la photo de famille d'hélicoptère, parce qu'évidemment aucun photographe au sol ne pouvait réussir à photographier tout le monde.
Voilà, c'est génial, donc ça peut effectivement aller très loin, et puis on est tous les descendants si on remonte nos générations, on a tous un lien déjà avec la reine d'Angleterre, vous venez de me dire que j'avais moi la reine d'Angleterre était ma cousine ?
Potentiellement, oui. Hein ?
Yann Guillaume, oui. C'est super. Moi qui ai toujours rêvé de Buckingham, ben je me demande vraiment ce que je fais rue Bayard, franchement. Et pourquoi potentiellement ?
Parce qu'en fait, bon, comme me disait Marie-Odile, plus on remonte, plus on a d'ancêtres.
Oui.
Donc à la 35e génération, on a à peu près 17 milliards d'ancêtres. À la 40e, donc c'est un peu 1000 milliards. C'est à l'époque de Charlemagne. Or, la France, à cette époque, compte à peu près 8 millions d'habitants.
C'est rien.
Et dans ces 8 millions, beaucoup n'ont pas eu de descendants parce qu'il y a eu des grandes pestes, tout ça. Donc il y a eu beaucoup de morts dans les différentes périodes. Donc en fait, on descend de très peu de monde. Donc soi-même, on a plein d'ancêtres communs, ce qu'on appelle des implexes. Donc on descend 4 fois, 10 fois, 50 fois du même ancêtre. Et donc après, ben, on est tous plus ou moins cousins. En fait.
Ouais, c'est ça, dans ce studio, on est tous cousins. Quoi.
Voilà, il y a un moment, on est...
Il y en a que je prends, il y en a que je ne prends pas. Hein,
voilà.
C'est drôle.
Ben, d'ailleurs, en fait, il y a une étude génétique qui dit que tous ceux qui ont les yeux bleus ont le même ancêtre. Hein. Donc, voilà.
Tout le monde se regarde, attention. Très bien, alors, maintenant, comment ça se passe ? Parce que c'est super, mais c'est impressionnant, un arbre généalogique. Steven qui nous dit qu'il se demande par où commencer, comment faut-il s'y prendre. Certains tweets que l'on a reçus nous parlent de beaucoup de patience. Il y a Antoine Zebès qui dit ouais, « Moi, je ne suis vraiment pas sûre d'avoir la patience pour le faire. » Déjà, quelles sont les qualités requises, Marie-Odile Merniak ? Avoir du temps, comme nous le disait il y a un instant Gérard, en disant « Moi, j'ai profité de ma retraite pour le faire. »
Oui, avoir du temps, parce que c'est très addictif. Mais si on a très peu de temps, on peut quand même, à moins d'avoir un grand-père ukrainien, bolivien et des difficultés de recherche, on peut quand même retrouver en deux jours ou une semaine son ascendance en ligne directe jusqu'à François Ier pour une branche. C'est-à-dire, par exemple, son nom de famille, hop, on remonte. Et ça, c'est fait en une semaine. Donc ça ne prend
en ne faisant
pas
que ça.
Non.
Qu'est-ce que vous appelez en une semaine ?
Pas forcément, oui. Enfin, déjà, de toute façon, il faut commencer par soi.
Oui.
On va demander son acte de naissance.
Très bien.
À la mairie, qui va indiquer les dates et lieux de naissance de ses parents sur l'acte de naissance.
Ok, et après ?
Et après, on remonte. Alors, ça se complique avant 1923. Parce qu'à partir de 1923, effectivement, les actes de naissance indiquent les dates et lieux de naissance des parents. Avant, il y a juste les âges. Donc, c'est plus compliqué. Parce qu'il va falloir chercher soit le décès, soit le mariage des parents, pour pouvoir retrouver la filiation et remonter ainsi de suite.
En fait, on rebondit d'acte en acte.
C'est ça.
Donc, chez soi, on peut avoir aussi beaucoup de papiers de famille. Si, pour peu qu'on ait ceux des grands-parents, on remonte déjà assez haut dans le temps. Et puis ensuite, on part dans l'état civil. Et là, on rebondit d'acte en acte. Et la qualité principale, c'est la précision. Faire attention, chercher les indices. Donc, on est un véritable enquêteur. Puisque, effectivement, comme le disait Yann, on va avoir davantage, au fur et à mesure que le temps passe, des âges plutôt que des lieux et des dates de naissance
précises.
Donc,
moins d'informations, finalement.
Moins d'informations. Il va falloir, alors, exactement comme un commissaire, interroger les témoins.
Oui.
C'est-à-dire les témoins qui sont sur les actes vont être mentionnés avec leur lien de parenté. On va dire qu'ils sont l'oncle, la tante, et ça peut permettre, parfois, quand on perd une piste, de rebondir grâce aux témoins vers la bonne filiation.
Très bien, vous l'avez compris, on mène l'enquête hein, cet après-midi sur RTL. Dans un instant, c'est Alain qui va pouvoir nous raconter, lui, comment il est remonté à 5000 individus sur une période de 550 années. Avec vous, à tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Paul qui nous écrit « J'ai fait mon arbre généalogique sur Internet et grâce au registre d'état civil en ligne, j'ai pu remonter jusqu'en 1746. » On peut remonter jusqu'où, en fait, Yann Guillerme ?
Alors, ça va dépendre des branches, en fait. Des régions aussi.
Oui.
Des branches, parce qu'il y a des familles où c'est très facile, ils n'ont pas bougé, les registres sont là. Si vous avez des ancêtres itinérants comme des sabotis, ça va être beaucoup plus difficile de les retrouver. Donc vous pouvez être très vite bloqué. Donc généralement, on remonte en 1600, 1650, assez facilement. Après, c'est de plus en plus difficile parce que les informations sont de plus en plus rares. Il n'y a pas forcément les actes de mariage.
D'accord.
Les actes n'indiquent pas les parents. Donc, il faut vraiment fouiller et, comme on disait, regarder les témoins, tout ça, pour aller vers de nouvelles pistes.
Alors, on rebondit de génération en génération ou de connaissance en connaissance, en fait, Marie-Odile Mériac.
Oui.
Yann Guillaume nous parlait tout de suite de sabotier. Comment est-ce qu'on sait qu'on est ancêtre, que nos ancêtres étaient sabotiers, ou alors, comme Gérard nous parlait de bourreau tout à l'heure. D'ailleurs, c'est ce qui est super exotique et rigolo, je trouve aussi. Hein. Mais comment le sait-on ?
Les actes, enfin les métiers sont toujours indiqués dans les actes. Donc dès qu'on trouve un acte de naissance ou
mais
un acte de mariage... Oui, oui,
ah
tout
bon
à fait.
D'accord.
Oui.
Oui, bah non, mais vous me regardez alors, comme ça. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas regardé mes actes de mariage.
Alors, c'est déclaratif.
Oui,
ce qui veut dire que.
Puis ça correspond à un moment de la vie.
Oui, ça correspond uniquement au moment précis de l'acte.
D'accord.
On peut par exemple suivre des couples où on voit les évolutions du métier du père et de la mère en fonction, au fur et à mesure que les enfants naissent. S'il y a une dizaine d'enfants, sur une vingtaine d'années, on voit l'évolution des métiers. On les suit à chaque acte.
Et puis, il est un temps, pardon, mais c'est très spontané, mais il est un temps où on faisait beaucoup, beaucoup d'enfants.
Oui.
Oui.
Donc, j'imagine que pour les arbres, tout à coup, sont 36 ramifications à chaque fois, quand il y avait des fratries de 15 enfants.
Oui, surtout si on veut chercher, effectivement, les descendants de chacun.
Voilà. Là. Alors, justement, on a une question. Sébastien qui nous écrit. Je fais mon arbre depuis quelques années. Je voudrais savoir, avoir des conseils, s'il vous plaît, pour trouver les descendants, car pour les ascendants, c'est relativement facile, mais pour les autres, non.
Tout à fait.
Oui, d'accord, mais l'idée, c'est d'aider Sébastien.
Bah, en fait, il faut normalement aller voir chaque acte, chercher les mariages. Est-ce que les personnes se sont mariées ou se sont décédées ? Donc, il faut chercher les mariages et les décès. Le problème, c'est qu'ils peuvent se déplacer. Donc, on va s'aider grâce à des sites en ligne où déjà des généalogistes ont mis leur généalogie. On parlait de Généanet, par exemple, tout à l'heure, où les gens ont mis leur généalogie en ligne. On va taper un nom, un prénom, un lieu, et on va voir si des personnes ont cette personne dans leur arbre. Ils ont peut-être, eux, trouvé le mariage et des descendants, par exemple.
D'accord.
Et il y a les associations de généalogie aussi. Il y en a un peu plus de 300 en France qui font un travail fantastique de bénévolat et de saisie des actes. Et vous avez des bases de données, vous allez pouvoir trouver, mettre un nom, un prénom et chercher le mariage ou le décès.
Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, Marie-Odile Mériac ?
Oui, qu'effectivement, sur 10 enfants, on ne peut pas savoir où ils sont partis. On peut passer par les notaires, par exemple les actes de succession, pour avoir la liste complète des enfants d'un couple et savoir où ils sont partis, leurs différentes adresses, et voir qu'ils ont pu partir à l'étranger, rester sur place, monter à Paris, etc.
Oui, c'est ça, quand on part à l'étranger, ça nous fait voyager aussi, les arbres généalogiques, Yann Guillaume, c'est-à-dire qu'on se balade en France, et puis parfois au-delà de nos frontières.
Oui, parce que justement, grâce aux archives, par exemple pour mon cas, grâce au registre matricule militaire, qui sont en ligne actuellement, j'ai vu que mon arrière-grand-père vivait au Canada, ce qu'on ne savait pas dans la famille, qu'il était à Jersey. J'ai pu retrouver après des cousins à Jersey grâce à des documents en ligne. Et puis, trouver des branches en Australie et aux États-Unis.
Alors, ça veut dire que vous, quand vous retrouvez vos cousins, vous les appelez, Yann ? Bonjour, on est cousins, mais en fait...
Il faut essayer de trouver un contact par Internet. Donc, moi, pour Jersey, on m'a contacté parce que j'avais mis ma généalogie en ligne. Après, ben, y a des sites, les réseaux sociaux, Facebook marche assez bien pour vous taper un nom et un lieu. J'avais mis Fichou Australie et je suis tombé sur des Fichou en Australie qui effectivement étaient mes cousins. Donc voilà, les réseaux sociaux servent à ça.
Donc en fait aussi, les réseaux sociaux servent à ça, et faire de son arbre généalogique aujourd'hui, c'est une façon aussi de non seulement d'agrandir le spectre de nos ancêtres, mais aussi de notre famille actuelle.
Oui, tout à fait, de retrouver des cousins qu'on connaissait pas.
Ouais.
Là, actuellement, on m'a contacté une cousine de mon arrière-grand-père qui est toujours vivante et qui a 101 ans actuellement. Ouais.
Quand vous retrouvez des cousins actuels, oui. Est-ce que, pardon, il y a des reconnaissances? Est-ce que vous vous rendez compte que tout à coup, il y a un même regard? Est-ce qu'il y a une façon, effectivement, de se dire, bah oui, on est vraiment de la même famille?
Ça peut arriver, oui. Par des photos, par exemple, on se dit, bah tiens, il y a une ressemblance. Enfin, on essaye de voir, effectivement, les ressemblances, les photos. Donc, on essaye d'échanger des données, des informations, ouais.
C'est super. Bon, écoutez, on va se retrouver, si vous le voulez bien, tout de suite sur l'antenne d'RTL, des questions qui nous arrivent, auxquelles, évidemment, vous allez répondre. Mais pour l'heure, allez, on remonte un peu, c'était en 1983, vous voyez, c'est presque une génération. Elton John sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Je suis persuadée que cette émission vous donne envie et visiblement, ça fait du bien. Ma maman s'est plongée dans la généalogie depuis plusieurs années et c'est devenu une véritable drogue, nous écrit Sylvie. Plus on cherche, plus on trouve et plus on a envie de chercher plus loin. Elle est remontée jusqu'à la moitié du XVIe siècle, mais il est parfois difficile de déchiffrer les documents d'époque en vieux français. Il nous manque un maillon pour nous relier à la descendance du père d'Henri IV. Mais des ascendances plus modestes sont toujours intéressantes. Un ancêtre est mort en prison, un autre était paveur de rue, c'est un enrichissement personnel. C'est addictif, Yann Guilherme, hein, la généalogie. Quand on commence à mettre le nez dedans...
Bah oui, moi ça fait plus de 20 ans, 25 ans que j'ai commencé à
ça a l'air de vous réussir.
Oui. Oui, on a toujours envie d'aller plus loin en plus, ouais. Et de découvrir. Puis après, au-delà du nom et du prénom, on a envie de savoir plus qu'est-ce qu'ils faisaient, par exemple les métiers, ouais. Comment ils vivaient, leur niveau de vie.
Ouais.
Et donc là, on doit aller aux archives pour trouver d'autres documents qui vont étoffer un peu la généalogie.
Donc quand on fait son arbre généalogique, Marie-Odile Merniak, si on écoute Yann Guilherme, c'est qu'on ne reste pas simplement assis dans son canapé face à son ordinateur. C'est qu'en plus de ça, on bouge.
Oui, on peut être assis au début pour retrouver les noms, les dates, les lieux, mais ensuite, si on veut découvrir qui ils étaient vraiment, tous ouais. ces noms de papier, on est obligé d'aller aux archives départementales, d'explorer les documents notariés, et là, on peut trouver la couleur des robes des ancêtres, même au XVIIe siècle.
Mais comment vous la retrouvez, la couleur de la robe ?
Parce qu'il y avait des inventaires après décès, dès que une personne décédée en laissant des enfants mineurs. Alors comme la majorité était à 25 ans, que les gens mouraient tôt et qu'ils avaient beaucoup d'enfants, en général on retrouve ça presque à chaque fois. Et le notaire raconte, entre dans la maison et décrit tout ce qu'il voit. Il ouvre c'est tous génial. Les meubles, il décrit le contenu de tous les meubles, il dit si les robes étaient de tel tissu, de quelle couleur elles sont, si elles sont usées ou pas, donc vous savez un petit peu quel est le niveau de vie de votre aïeule, vous savez si elle avait des bijoux ou pas du tout, s'il y avait quelques livres ou aucun, l'état des casseroles de sa cuisine, enfin on sait absolument tout, et puis y compris les relations de famille. J'avais comme ça un arrière-arrière-arrière-grand-oncle qui suivait le notaire, sa fille était décédée, en laissant deux petits, et il suivait le notaire en disant « Mais attendez, là vous venez de noter qu'il y avait, on était en 1820, hein, vous venez de noter qu'il y a 10 cuillères, j'en avais offert 12 à ma fille, c'est donc que mon gendre en a volé deux. Notez-le dans l'acte. » Et vous avez le notaire qui dit « Monsieur un tel me dit de noter que... »
C'est formidable.
C'est très amusant.
Oui, c'est ça. Alors, il y a Sylvie qui nous parle du vieux français. Déjà, ça c'est une chose. C'est encore une autre source de connaissances hein, que d'essayer de déchiffrer et de voir comment on écrivait en vieux français, décrypter ce vieux français. Et vous nous disiez, Yann Guilherme, il y a un instant, qu'en fait, il ne faut surtout pas s'arrêter au nom de famille.
Alors, à l'orthographe des noms de famille, ouais. C'est vrai qu'on est très attaché à son orthographe. Et en fait, au cours des siècles, il n'y avait pas d'orthographe. Hein, donc les gens écrivaient à l'oreille. Et on peut d'ailleurs, si on bouge de région ou de coin, avoir des évolutions assez importantes de noms.
Ouais.
Par exemple, j'avais une arrière-grand-mère qui s'appelait Le Nonès en deux mots. Et en remontant, j'étais bloqué. Et son père s'appelait Lonos en un seul mot. Donc on a... Il faut savoir qu'effectivement, Perrault, P-E-2-R-O-T, ça peut être P-E-R-A-U-L-T, par exemple.
Voilà, là, c'est pour Vincent Perrault qui nous écoute.
Voilà.
En direct du deuxième.
Ouais. Donc, voilà, il ne faut, pas s'attacher à l'orthographe, effectivement, et penser à chercher sur différentes orthographes, surtout au XIXe siècle.
Parce
au XXe siècle, ça se fixe, mais avant... Ça peut changer.
Mais alors, par exemple, moi, je pars sur mon nom, flamand, F-L-A-M-E-N-T. Je cherche du flamand, F-L-A-M-A-N-D.
Oui.
Mais comment est-ce que je vais savoir qu'il y a un lien, pardonnez-moi, c'est très naïf, entre les A-N-D et les E-N-T?
Il faut dans l'acte, vous allez avoir par exemple le nom des parents. Donc, quand vous allez chercher voilà, les actes de tous les enfants, eh bien, il faut penser à, aux différentes orthographes possibles, en fait.
Très bien, vous avez réponse à tout. On va voir si vous avez réponse à la question de... mais en tout cas, la réflexion d'Hubert que je trouve intéressante. De nos jours, il y a de plus en plus de familles recomposées. De ce fait, les arbres généalogiques ne vont-ils pas être de plus en plus difficiles à remonter? C'est vrai, ça, Marie-Odile Merniac?
À remonter, non, mais à descendre, oui. Parce qu'à remonter, on a une administration qui est aussi de plus en plus précise. Donc, dans les actes, on aura bien tous les éléments concernant les parents d'un bébé qui vient de naître. En revanche, si on veut retrouver tous les frères, toutes les sœurs et les descendances, là, on ne sait pas forcément sous quel nom de famille ils ont pu être enregistrés. On peut avoir des difficultés dans quelques décennies.
Les familles recomposées, me disiez-vous, Yann Guillerme, Morantaine, en fait, elles existent depuis longtemps?
Oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est
un phénomène actuel.
Voilà, c'est un phénomène actuel, que ça n'existait pas avant, mais en fait, c'est faux. Parce que c'est justement l'intérêt de la généalogie, c'est de s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont fausses. Et qu'en fait, avant, donc, quand on a 10 enfants et qu'il y a un des conjoints qui meurt jeune, on meurt assez jeune, ça peut être à 40 ans, 30 ans, et bien tout de suite, l'autre conjoint va se remarier, assez rapidement, souvent, hein, quelques mois après. Et donc, et puis ce père, par exemple, qui se remarie, il peut aussi décéder. Donc, les enfants sont confiés à l'oncle, à la tante, et on a beaucoup de familles recomposées. On va trouver des ancêtres qui se sont mariés 3 fois, 4 fois, voire plus.
Dans un instant, nous allons donner la parole à Alain sur cette antenne qui va nous expliquer sa satisfaction d'être remonté si loin, justement, du côté de son arbre généalogique. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Ève qui nous écrit « Une cousine de mon père a fait notre arbre généalogique. Depuis, nous nous retrouvons entre cousins au mois d'août au Portugal. La première année, nous étions une trentaine. Cette année, nous attendons plus de 150 personnes sur 2 jours et qui arrivent du Canada, d'Afrique et de toute l'Europe. » C'est génial, j'adore. Un message de Jérôme. « Coucou Flavie. Bon, apparemment, on est tous cousins, donc vous passez boire un verre à la maison quand vous voulez. Écoutez, Jérôme, laissez-nous votre adresse et j'amènerai les cacahuètes avec un grand plaisir. Val qui nous écrit « Quand nos ancêtres sont nés à l'étranger, comment connaître leur façon de vivre ?» Est-ce qu'on a des éléments là-dessus ou pas?
De plus en plus par Internet, mais c'est très variable selon les pays.
D'accord.
Donc, par exemple, pour la Grande-Bretagne, tout est sur Internet. Pour d'autres, c'est moins facile. C'est à voir pays par pays.
Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose, Yann Guillaume?
Pour l'étranger, il y a Family Church, c'est le site des Mormons.
Oui, exactement.
Effectivement, où ils ont mis des registres en ligne, il y a pas mal de données justement qui sont très très utiles. Ouais.
Très bien, merci pour nos auditeurs. On va accueillir Alain si vous le voulez bien. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Comment va Yvette?
Pardon?
Comment va Yvette?
Ah, elle va coussi coussa, elle n'est pas en très bonne santé.
Ah.
Voilà.
Vous l'embrasserez pour nous, d'accord?
Pas de problème.
Bon, Alain, vous êtes passionné donc pour la généalogie. Vous êtes remonté. Aujourd'hui, 5000 individus sur une période de 550 années. C'est fou ça. Vous avez toujours voulu faire votre arbre généalogique?
Pas toujours, non, parce que ça m'est venu il y a quoi, 5 ou 6 ans, en voyant ça sur Internet, sur des pubs sur Internet,
ouais.
Sur des sites que j'ai pioché un peu au hasard, et puis bon, j'ai dit tiens, ça m'intéresse, et je suis parti comme ça, quoi.
Et c'est vrai que c'est une sorte de drogue?
Oh oui, au départ, on a facilement tendance à laisser tomber quand ça se complique,
ouais.
Mais une fois qu'on est on a mis les pieds dans le bain, c'est parti. C'est une drogue comme ceux qui sont au téléphone à longueur de journée.
Oui, je vois ça. Vous avez découvert que vos ancêtres, ils sont principalement des terriens, des agriculteurs, des bûcherons, et vous dites qu'il faut vraiment faire montre de patience.
Très, très, beaucoup, beaucoup de patience. Ça ne se fait pas en un jour, ni en une année. C'est très long et il ne faut surtout pas lâcher. C'est quelque chose où il faut une patience parce que c'est comme à la pêche, on ne mord pas tous les jours.
Est-ce qu'on a des moments de découragement aussi, Alain, parfois?
Oui. Oui, les moments de découragement, vous savez, je vais plus sur l'ordinateur pendant toute une semaine et quand j'arrive, je suis content, j'ai des nouvelles. Et puis ça repart, et puis jusque à temps qu'on se lasse un peu, c'est ça quoi. Il y a un moment, faut pas s'abrutir non plus, hein.
Très voilà. Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Je vous embrasserai Yvette, Alain, et puis on vous souhaite une bonne fin de journée et un très, très, très gros arbre généalogique encore à venir. À bientôt.
Oui, oui. Et je voulais surtout dire que c'est grâce quand même à Internet maintenant les sociétés qui nous font, comment dire, qui nous font évoluer. Sans citer, mais moi je suis sur Généanet avec le partage. C'est surtout ça le truc qu'il faut dire, c'est que c'est un truc de partage beaucoup, la généalogie. Hein. Donc des sites comme Internet, ça nous permet de partager nos arbres, et c'est comme ça que moi j'ai réussi à avancer une bonne partie. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, et puis il y a autre chose, il y a les archives départementales, depuis que maintenant elles sont pratiquement tous ouvertes sur Internet, ça m'a permis les années dernières déjà d'avancer beaucoup. Bon, moi j'entendais des personnes avant moi parler d'étrangers. Moi j'ai pas trouvé d'étrangers dans mes descendances. Ouais. Donc ça se limite pour un côté pour aller sur les Landes. Vous ferez un rapprochement avec Christian, le cousin.
Qui nous écoute, qu'on embrasse d'ailleurs.
Alain,
je suis désolée, il va falloir que je vous débranche et que je me débranche aussi, parce que malheureusement, vous savez, le temps file sur Internet, donc je vais être obligée de vous embrasser et de vous dire au revoir. Mais je vous remercie pour tous vos conseils, et puis on embrasse effectivement Christian, car c'est grâce à lui qu'on a pu faire connaissance.
Merci bien.
Prenez soin de vous, Alain. Merci, on vous embrasse. Au revoir, merci Alain. Toto qui nous écrit, le mien est un gros bordel, entre guillemets. Entre l'adoption de mes parents, les remariages, etc., j'ai vite abandonné. Est-ce que ça fait partie justement des choses qui découragent? Il nous l'expliquait, Alain. On a des moments de découragement, et puis en même temps, il y a de l'entraide quand on essaie de faire son arbre généalogique. C'est ça la valeur du lien social. Est-ce qu'il y a des arbres qu'on n'arrivera jamais à remonter pour des histoires justement d'adoption, de remariage?
Oui, de fille-mère, hein, tout simplement.
De fille-mère, donc, absolument.
Y a des branches effectivement qui seront totalement bloquées parce que le père est inconnu, donc il n'y a que la mère. Donc là, on est bloqué, à moins de trouver un document. Voilà,
on est sous X.
On peut remonter jusqu'à quand?
C'est François Ier qui a créé l'équivalent de l'état civil.
D'accord, donc on peut remonter jusqu'à François Ier.
En 1539.
D'accord.
Après, on a d'autres types de documents, comme les documents notariés, qui peuvent permettre de remonter un siècle. En plus, on a des documents fiscaux. Les meuniers, par exemple, étaient très surveillés, très contrôlés par le fisc de l'époque. On peut remonter deux siècles. Ouais. Et puis, si on a une famille noble, on peut remonter encore plus loin.
Jusqu'à Charlemagne.
Ouais. Merci pour ces infos. Dans un instant, pour nos auditeurs, on va revenir sur les différents sites qui peuvent aider. Vos ouvrages, évidemment. Votre site, Yann Guillère. Mais je vous parlais du programme de demain, je vous dis que ça.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Oyez, si vous voulez faire votre arbre généalogique, d'abord, je vous rappelle des ouvrages qui peuvent vraiment vous intéresser. Retrouver ses ancêtres bretons. Alors ça, c'est votre ouvrage, Yann Guillerme, aux éditions Archives et Culture. Ensemble, vous avez écrit « Faire son arbre généalogique par Internet » aux mêmes éditions. Donc vraiment, merci de nous les avoir apportés. Qu'est-ce qu'on a encore, Marie-Odile? Les archives de notaires et de généalogie, ça peut aider, évidemment, dans les recherches.
Oui.
Hein, ça, c'est bon d'avoir cet ouvrage avec soi. Et puis, retrouver l'histoire d'une maison, c'est votre ouvrage également chez Archives et Culture, car on l'aura bien compris, quand on remonte son arbre généalogique, on remonte son histoire, et puis du coup, on voyage, et puis parfois, effectivement, on peut s'arrêter sur des lieux, et c'est toujours intéressant de savoir d'où ils viennent, et on vous recevra prochainement pour parler de tout ça. Merci beaucoup Marie-Odile Merniac.
Merci
d'avoir accepté notre invitation. Yann Guillard, moi je conseille le site www.guide-généalogie.com, c'est vous qui en êtes donc le créateur, et qui peut aider nos auditeurs aussi.
Vous allez trouver des conseils pour démarrer ces recherches, et puis après vous avez les sites internet, les archives départementales,
hein,
c'est la Mecque pour les généalogistes.
Très bien.
Et puis les associations de généalogie aussi.
Très bien. Et oui, les associations qui peuvent effectivement vous aider. Et je rappelle, le salon de généalogie, ça se tiendra les 10 et 11 mars prochains à la mairie du 15e à Paris. Dernière chose rapide, la famille 2, voilà, vous regardez sur rtl.fr, c'est Grand Mercredi qui vous propose carrément d'avoir votre arbre généalogique. Vous n'avez plus qu'à le remplir. Demain, une question simple pour des réponses passionnées. En matière de sexe, les hommes ne pensent-ils vraiment qu'à ça? Vous serez nombreux demain, j'en suis sûre, au 3210 sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse.
Vous écoutez RTL.